Bien, mesdames et messieurs, comme vous avez pu le constater au cours de ces quatre dernières séances, la documentation de NISA est très diversifiée, très complexe, et chaque nouveau dossier appelle à de nouvelles expertises et à de nouvelles confrontations des sources. Et nous avons décidé de consacrer ce séminaire à l'un des dossiers les plus passionnants, mais aussi les plus techniques de cette documentation nicéenne, c'est-à-dire le dossier de l'épigraphie. Mikhaïl Chenkar et moi-même allons tenter aujourd'hui de vous donner quelques éléments, quelques pistes de réflexion peut-être sur ce matériel textuel et d'essayer d'en tirer des observations quant à la vie quotidienne des habitants de la cité de Nissa, de la forteresse et de sa région, et aussi des éléments quant à la vie économique et le contexte historique également, et surtout le religieux. Alors, ces textes ont tous pour support des tessons de poterie. Ils sont inscrits à l'encre noire et mesurent entre 7 et 30 cm, d'où le nom d'ostraca. Et comme on peut le voir sur ces images, il ne s'agit pas d'un récipient déjà inscrit qui a été brisé, mais l'inverse, c'est-à-dire des tessons de jarres, de poterie, qui ont servi comme support d'écriture. Et nous verrons bientôt quel en était l'usage. Le nombre des ostracas retrouvés à Nissa est tout à fait remarquable. Il y en a environ 2760 qui sont déposés pour la grande majorité au musée de l'Ermitage. Alors, les fouilleurs ne les ont pas trouvés tous tout du même coup, comme il a été le cas pour les ritons, mais ils ont été découverts progressivement à partir de 1934. Puis dans le contexte des fouilles de Yutake, surtout sur le site de la nouvelle Nissa au début, puis à partir des années 50, c'est le site de l'ancienne Nissa qui en a révélé un très très grand nombre. Ce nombre a rapidement augmenté jusqu'aux récentes découvertes en 2006. Donc la grande majorité provient des fouilles de l'ensemble architectural nord, de ancienne Nissa, à l'est du bâtiment que l'on a appelé la trésorerie et dont France Grenet a longuement parlé la dernière fois, on a dégagé plusieurs locaux qui se sont avérés des celliers à vin. Il y a 9 entrepôts qu'on peut voir sur cette image. Et ces ostracas constituent en réalité le reste, le rebut d'une ancienne archive, donc ce n'est pas une archive en soi, l'archive des rentrées de l'eau de vin à l'intérieur de ces entrepôts. C'est en réalité la seule documentation archivistique massive que l'on ait retrouvée en Asie centrale sur le site où elle était utilisée. Alors, ces tessons étaient utilisés comme des étiquettes posées sur le récipient ou apposées au récipient, pour indiquer toute une série d'informations relatives au contenu du récipient dont on va bientôt parler. D'autres denrées sont mentionnées sur les ostracas, des olives, le sésame, la farine et le blé aussi, mais 80% des ostracas concernent le vin et le vinaigre. Ils commencent à être publiés très tôt par les frères Diakonov et par Vladimir Lifshitz, et dès le début des déchiffrements, une polémique apparaît à propos de la nature de la langue dans laquelle ces textes ont été écrits. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse épigraphique pour expliquer la nature de la polémique d'abord. Comme vous le savez, dans l'Antiquité, la frontière entre la langue et l'écriture n'est pas définie que de la même manière qu'elle l'est pour nous. On peut écrire n'importe quelle langue avec n'importe quelle écriture, ou plutôt n'importe quel système graphique peut s'adapter avec plus ou moins de succès à une écriture donnée. Surtout si ce système graphique est conventionnel, normatif, et qu'il est utilisé de manière officielle. Sur les ostracas, on peut reconnaître du premier coup d'œil que c'est une écriture sémitique, c'est de l'araméen, dans une forme très similaire de ce qu'on a appelé l'araméen d'Empire, c'est-à-dire la langue et l'écriture utilisée par la chancellerie achéménide et aussi par les chancelleries des empires néo-assyriens. Alors, les savants ont immédiatement remarqué les similitudes graphiques entre les ostracas et les papyrus d'Éléphantine, datés du 4e siècle avant du 5e siècle avant notre ère, et aussi ce parchemin Parthe, découvert à Aurarman, au Kurdistan, et à peu près contemporain de nos ostracas. Comme on a estimé que c'était de l'araméen, c'est avant tout les sémitisants qui se sont engagés dans les premiers essais de traduction, et avec une contribution notable de la France, dans la personne de Maurice Schneiser, directeur d'études à l'École pratique de hautes études, qui publia dans les années 60 toute une série d'articles dans la revue Sémitica, qui a participé donc au travail de déchiffrement. Dès le début, une controverse apparaît, parfois assez animée, et elle oppose d'une part les iranisants, qui considèrent que l'élément araméen de ces textes est en réalité des idéogrammes, ce qu'on va appeler par la suite des araméogrammes, c'est-à-dire un élément fossile, un témoin fossile de l'usage de l'araméen dans des temps anciens. Et l'avis, l'avis inverse est celui des sémitisants en majorité, qui considèrent que non seulement ces inscriptions, mais également d'autres bien postérieures, sont écrites en araméen pur et que la notion d'idéogramme ou d'araméogramme n'est valable que pour d'autres langues iraniennes, telles que le moyen perse, langue officielle des Sassanides. Alors, qu'est-ce qu'un araméogramme ? Sur ce document, cet ostraca dont j'ai translittéré et transcrit le texte, j'ai rendu en rouge les araméogrammes, en bleu tout ce qui n'est pas araméogramme, et en bas en jaune, j'ai transcrit l'équivalent phonétique en langue parthe, dans la langue iranienne parthe, c'est-à-dire la manière dont nous imaginons que le texte était lu. Il faut remonter à l'époque achéménide pour comprendre quel est ce phénomène et comment on en est arrivé là. L'araméen, imaginez que la langue de la chancellerie est l'araméen. Les documents écrits en araméen sont envoyés aux quatre coins de l'Empire. Ils sont réceptionnés par des secrétaires eux-mêmes araméens qui vont lire ce document et le traduire dans la langue vernaculaire de la région où ils habitent. Plus tard, pour des raisons diverses, la présence de l'araméen sur les documents va se réduire à des symboles graphiques, et c'est la langue vernaculaire qui va petit à petit être écrite avec les mêmes symboles, avec les mêmes symboles graphiques, et dans la même écriture qu'eux, et sur les mêmes documents. Ces symboles graphiques sont les araméogrammes que vous voyez ici en rouge. Il faut quand même attendre la fin des années 60 pour entériner définitivement l'idée que la langue des ostracas est bien une langue iranienne, la langue parthe, et qu'à l'instar d'autres langues iraniennes, comme le moyen perse ou d'autres langues moyennes iraniennes, utilisent l'écriture araméen et l'araméographie ou l'hétérographie de manière générale. Pourtant, cette documentation nicéenne a un caractère exceptionnel, puisque d'abord c'est le premier témoignage de la mise par écrit d'une langue iranienne dans cette écriture. Et puisque le plus ancien document date de 150 avant notre ère, le plus récent date de 13 avant notre ère. Et comme il s'agit de documents administratifs, économiques, la formulation est traditionnelle, elle est conservatrice, et donc il y a beaucoup plus d'araméogrammes que d'éléments typiquement iraniens. Comme on le voit ici, le parthe se réduit, on le verra un peu plus loin quand je rentrerai dans les détails, le parthe se réduit au toponyme, au nom de personne, au titre et aux fonctions administratives, aussi à quelques terminaisons verbales et à quelques particularités syntaxiques. Donc cette dominance graphique de l'araméen a fait naturellement hésiter les premiers déchiffreurs. Je vais maintenant parler du contenu de cette documentation. On distingue plusieurs catégories de textes, mais trois grands types se dégagent, avec plus ou moins de variations. On a le premier formulaire, qui est très bref, qui est surtout en vigueur au début du 1er siècle, avant notre ère, et je vais lire le document. L'an 155 de l'ère arsacide, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'ère séleucide n'est plus utilisée, dans cette jarre, du vin nouveau provenant du vignoble situé à Bars Poshan. Donc la quantité de vin n'est pas indiquée, on a seulement l'année de production, le nom du domaine. Les Ostrakas ont livré les noms de 25 domaines différents, les Dastgird en part, et de 33 vignobles. Seulement un des domaines a pu identifier un site qui est encore visible dans le Turkménistan d'aujourd'hui. Un deuxième type de formulaire qui se normalise à partir des années 80 avant notre ère, qui est un peu plus détaillé. Cet exemple provient du même domaine, mais il a été écrit 10 ans plus tard. Dans cette jarre du domaine de Bars Poshan, provenant d'un vignoble du type Ouzbari, je vais commenter ce terme, 18 mares de vin, livrées pour l'année 165, apportées par Varagnak, livreur de vin. Le terme technique Ouzbari désigne un bien soumis à une taxe qui était prélevée sur les bénéfices annuels et qui était directement versée au trésor royal. C'est ce qui se rapproche dans le droit rural du métayage ou d'un bail de longue durée où l'on verse un loyer en nature d'un montant variable. Ici, cette taxe en nature consiste en 18 mares de vin, le mar étant une unité de mesure qu'on connaît aussi à l'époque achéménide, en particulier dans les tablettes élamites retrouvées à Persépolis sous la forme marish, et qui correspond à peu près à 9,30 litres. Et une autre unité de mesure qu'on rencontre dans les documents de Nissa, c'est le kabitch, qui représente un quart du mar. Donc, la jarre sur laquelle était apposé ce document contenait 162 litres. Ce que vous voyez en bleu à l'écran correspond à une seconde main, un second scribe, qui apporte une précision en interlinéaire. Il précise que 7 litres ont été ajoutés depuis le stock du magasin. Alors, le motif de cet ajout n'est pas précisé, mais on peut imaginer qu'il correspond au remplissage de la jarre afin de la saturer et que le niveau maximal soit constamment maintenu. France Grenet m'a rappelé que cette pratique s'appelait louillage dans l'élevage de vin actuel. La même main, pourtant, va nous dire que cet houillage était tout à fait inutile, puisque ce n'est plus du vin que nous avons, mais 162 litres de vinaigre. Une autre information tout à fait unique que nous livre le matériel de Nissa est l'onomastique. Plusieurs centaines de personnes sont nommées, des fonctionnaires de l'administration et de l'armée, des gouverneurs locaux, des satrapes, des margraves, des dirigeants de forteresses. Un Ostraka nomme même un roi et donne sa généalogie. Et puis on a le personnel de rang inférieur, des scribes, des selleurs, des vignerons et aussi des livreurs de vin. Alors tous ces noms sont extrêmement informatifs sur la typologie des noms propres à l'époque parthe, et peut-être aussi, nous le verrons tout à l'heure, sur la religion des personnes qui portaient ces noms. Ici, notre livreur de vin, par exemple, porte un nom théophore, un nom formé sur le nom du dieu Veresrarna, avec une petite déformation linguistique, dieu zoroastrien de la victoire. Nous reviendrons plus tard, beaucoup plus longuement, sur le caractère religieux des noms propres retrouvés dans les Ostrakas. La troisième catégorie de documents est en fait une variation de la deuxième. Donc je lis cet exemple. Dans cette jarre, donnée personnellement par Tiridate, commandant en chef de la cavalerie, 21 mares de vin, délivrées pour l'année 172. On a au total 8 documents concernant du vin donné par ce même Tiridate, soit un total de 1240 litres provenant de 8 vignobles différents et pour le compte d'une même année. Donc ces chiffres déjà suffisent à nous indiquer qu'il s'agit d'un personnage important, d'un personnage qui administre un grand nombre de terres. Mais le document nous fournit également son titre. En effet, sur les ostraca, tous les noms des fonctionnaires sont suivis de leur titre officiel. Tiridate est en part Mazan Asbed, c'est-à-dire commandant en chef de la cavalerie. Et l'on sait par ailleurs le rôle central que jouait ce corps d'armée dans l'armée parthe, avec la cavalerie légère et son fameux tir parthe, sans mauvais jeu de mots avec le nom du protagoniste, le tir parthe ou la flèche du parthe, et aussi la cavalerie lourde avec les cataphractaires et qui étaient munis de lances. C'est donc évident qu'il s'agit d'une très haute autorité militaire de l'Empire parthe, sinon la plus haute. On a aussi un autre contexte où l'on peut rencontrer ce Tiridate dans le corpus des bulles, des vraies bulles, pas les bulles que nous venons de voir au cours, les empreintes de sceaux qui étaient retrouvées aussi à Nissa. On a donc l'inscription du sceau porte le nom de Tiridate, à l'image un cavalier muni d'une lance, et on est tenté de penser qu'il s'agit d'une seule et même personne. Surtout que ces bulles ont été retrouvées pour leur majorité au pied des portes des entrées, ce qui laisse entendre que les entrées étaient scellées par de très hauts fonctionnaires et pas seulement par des fonctionnaires locaux qui administraient les entrepôts. Bien, à présent, à partir de ces différents types de documents, on peut essayer de retracer le parcours d'une livraison de vin jusqu'au magasin. Alors, deux catégories de vignerons, le raskor et le rasban, donc le vigneron ouvrier et le maître vigneron, produisent du vin sur le produit d'un vignoble soumis à une taxe spéciale, la taxe ousbari, qui doit être remise en nature. Ils travaillent donc pour un haut fonctionnaire dont on connaît le nom, qui est lui-même propriétaire du domaine. Soit il en a simplement la charge, il administre ce bien, et en tout cas, il doit payer à l'État une redevance annuelle sur ses bénéfices. Ces propriétaires ou administrateurs n'ont jamais en charge un domaine entier, mais simplement un ou plusieurs vignobles appartenant à des domaines différents. Cet impôt est payé sous forme de vin uniquement, le raisin ou d'autres produits dérivés ne sont jamais mentionnés, vin qui est livré au cellier de Nissa. Ce cellier porte un nom, le Madoustan, littéralement le lieu du vin. Et un document indique que ce magasin est situé dans la forteresse Mirdat-Kirt. C'est d'ailleurs ainsi qu'on connaît le nom du site de la ville, le site de Nissa à cette époque, ainsi que celui de son fondateur. Le volume varie grosso modo entre 15 et 20 mars, 140 à 180 litres, mais il est impossible de savoir si ce volume correspondait au montant de la taxe ou simplement au volume du récipient. Le vin est donc livré au magasin, peut-être dans des outres, peut-être dans des jarres transportables, à dos d'âne par exemple, sous la responsabilité d'un livreur, professionnel, madoubar en part, littéralement porteur de vin, ou plus rarement par un autre membre du corps administratif, des scribes, des selleurs, ou même directement par le vigneron. Quoi qu'il en soit, cette personne est toujours identifiable par son nom, et on donne également le village auquel il appartient. Donc ce type de précision et le souci du détail nous indique que le livreur n'est pas un simple portefaix, mais qu'il a aussi une fonction, un statut légal, une fonction juridique, et il doit être en mesure de prouver que la livraison a bien eu lieu, et on peut même imaginer qu'il repartait avec une copie du document qui était archivé par la suite. Le vin est versé donc dans une jarre. Il faut savoir que les celliers portaient des noms ou des numéros et on notait précisément le nombre de jarres que chacun contenait, y compris quand les jarres étaient vides. Un premier scribe inscrit sur un tesson de poterie tous les renseignements nécessaires, la date, la quantité, la provenance et éventuellement la qualité du vin nous savons qu'il y avait plusieurs types de vins qui étaient dans ces celliers, du vin jeune, vieux, du vin filtré, mélangé. Certains vins étaient transvasés. On a très peu d'indications sur la couleur, en tout cas jamais dans des termes rouge et blanc, mais plutôt du type vin de couleur claire. Enfin, le tesson est posé sur le récipient. Puis, un second scribe, plus tard, ajoute des clauses supplémentaires, des post-scriptum, qui correspondent à des constatations sur la transformation en vinaigre, comme on l'a vu, ou bien si le vin a été transvasé. Une autre formule se retrouve dans quelques documents que les éditeurs du corpus ont traduit « vin laissé par les échansons ». Peut-être pour indiquer que le vin n'était pas un assez grand cru pour être consommé lors des banquets royaux, ou plus probablement pour indiquer un lot que les échansons pouvaient emporter s'ils le voulaient, mais qui était un excédent par rapport à ce qu'ils avaient pris. Les données inscrites sur un ostracone devaient être transposées dans un registre des comptes, qui était tenu par le chef des scribes, qui parfois signe lui-même ses documents, le Dibir Bad. Et une fois que la jarre était vide, l'ostracone était soit effacé, soit réutilisé, nous avons un grand nombre de palimpsestes, soit jeté. Et c'est donc cette poubelle d'archives qui nous est parvenue. Alors je vais passer à présent aux informations religieuses qu'on peut tirer de ce matériel. On peut dégager quatre types de données ayant attrait aux religieux. Il y a tout d'abord l'onomastique, avec des noms propres formés sur des noms de Dieu. Il y a le personnel religieux, le calendrier liturgique et aussi la mention des lieux de culte. Je vais donner une brève introduction à chacun de ces quatre thèmes et Mikhaïl Chenkar rentrera beaucoup plus dans les détails. Cette archive présente le matériel onomastique le plus fourni pour l'époque parthe. Ces noms s'inscrivent pleinement dans la tradition anthroponymique iranienne et elle correspond aussi à une forme transitionnelle entre l'onomastique achéménide, que l'on connaît par des textes en vieux perse et en élamite, et l'onomastique sassanide, que l'on connaît par des textes moyen perse et aussi parthe. La majorité des noms sont lisibles, c'est-à-dire que l'on est capable de les analyser morphologiquement, d'expliquer leur formation et éventuellement leur signification. On constate qu'il existe un grand nombre de correspondances avec ce qu'on connaît déjà dans d'autres langues iraniennes, mais les noms de Nisar représentent malgré tout un grand nombre d'innovations linguistiques. Avant de vous donner des exemples des noms propres théophores, j'en ai sélectionné quelques-uns qui n'ont aucune connotation religieuse pour pouvoir les comparer. D'abord les noms des rois parthes, Frahat, qui signifie le mérité, et Arashk, Arsès, des noms basés sur des éléments concrets, comme Vardak, qui veut dire fleurie ou petite fleur, Huaspinak, qui est une innovation onomastique parthe, puisque c'est une formation secondaire sur un composé à deux membres, avec une dérivation suffixale, de l'ancien iranien Huv Aspa, qui a de bons chevaux. Un autre nom apparaît aussi, c'est Kovzad, fils de la montagne ou né de la montagne. C'est le nom d'un satrape et on le connaît aussi par l'inscription grecque du relief de Mithridate à Bissotoun, datée de 80 à 85 avant notre ère, sous la forme grecque Kophosates. Sur cette image, c'est le deuxième à gauche. Et c'est la concordance des dates qui a permis l'identification. Alors ce relief n'existe plus et ce dessin date du XVIIe siècle. C'est ainsi qu'on a pris connaissance de cette image et de l'inscription grecque, qui est partiellement lisible. Un autre nom est intéressant, Polychrome, Visp-Gonak, et bien sûr des noms mélioratifs. Il y en a beaucoup qui ont souvent attrait à des dispositions physiques. Ogdadak, à qui l'on a donné la force, Amtanug, au corps fort. Et puis voici d'autres exemples des noms théophores. Alors, Denich, qui est un hypocoristique formé sur le nom Den, la Daena, Ahurmazdak, donc un nom qui est formé sur Ahura Mazda, le dieu principal du zoroastrisme. Puis nous avons beaucoup d'exemples de ce qu'on appelle des faux dvanva, c'est-à-dire un dérivé de nom ou d'un nom double où deux noms de dieux sont accolés, sont juxtaposés. Et c'est la première fois qu'on voit ce type de nom avec les ostraca de Nyssa. C'est donc un autre apport typologique très important. Et après, des noms beaucoup plus classiques, avec le nom d'un dieu dans un premier membre du composé et un thème verbal dans le second membre, par exemple Vai Bozan, qui peut signifier sauvé par le dieu Vayu, le dieu de l'espace, ou alors avoir, quand on a aussi le, on peut avoir aussi le composant verbal en premier membre, Bort Sasan, qui signifie sauvé par le dieu Sasan. Mais l'implication religieuse de tous ces noms vont être commentées un peu plus tard. Nous avons aussi une mention du personnel religieux dans les ostracas. C'est intéressant de les voir en contexte administratif, ce qui montre que leur prérogative n'était pas seulement cultuelle. Mais on connaît déjà ce cas, puisque les tablettes de Persépolis montrent aussi les mages exactement dans le même contexte. Alors, sur un document de Nyssa, un prêtre portant le nom générique de mage, nommé Mirdod, est chargé, avec 4 autres personnes, d'escorter 60 000 litres de vin vieux, pour l'encens 76. Et sur un autre document, un prêtre qui porte le titre Autorspat, littéralement maître du feu, préposé au feu sacré, dépose au magasin une énorme quantité de vin pendant plusieurs jours consécutifs. Donc ces données peuvent signifier 2 choses. Soit le vin provient d'un vignoble ou de plusieurs vignobles vu la quantité qui était la propriété d'un temple du feu, soit la livraison doit être supervisée quotidiennement par un prêtre parce que le vin va servir à une fête d'ordre religieux. Une troisième information de ce type est le calendrier liturgique. Sur ces 2 documents que je viens de citer en exemple, où apparaissent des prêtres, et ce n'est pas un hasard, la date est donnée dans un calendrier qu'on appelle le calendrier liturgique zoroastrien. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement, comme les exemples que j'ai montrés précédemment, la mention de l'année, mais aussi le jour et le mois. Et ces jours et mois sont nommés d'après des divinités du calendrier zoroastrien, et du panthéon zoroastrien, et elles sont également c'est des jours et des mois qui sont dédiés à ces divinités. Et si la documentation de Nyssa est si importante pour nos études, c'est qu'elle correspond au tout premier témoignage que nous ayons de l'emploi du calendrier liturgique dans un contexte qui est clairement celui de l'agriculture et de la vie quotidienne. Alors la question qui va se poser pour l'époque parthe, c'est: est-ce que ce calendrier religieux est employé réellement pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour un hommage quotidien à chacune des divinités du panthéon avestique, ou alors un simple outil pour mesurer le temps, et dont les Parthes auraient simplement hérité. En d'autres termes, pour certains, le calendrier des ostracas ne suffit pas à prouver que Nyssa était une ville zoroastrienne. La même question va se poser un peu plus tard pour les noms propres, et Michael nous commentera cette discussion. Alors, quatrième exemple, les lieux de culte qui sont mentionnés aussi sur les ostracas. Un document indique la livraison de vin depuis un temple à Yazan vers l'entrepôt royal. La quantité est presque insignifiante par rapport aux chiffres que l'on vient de voir ensemble, seulement 5 mares de vin. Mais le document est incomplet, donc nous ne savons pas s'il s'agit d'un don ou d'un impôt. Avant de passer la parole à Michael, je vais lire un exemple d'un texte concernant un temple. Dans cette jarre du domaine de Bars Poshan, provenant d'un vignoble du type Uzvari, 8 mares de vin, et d'un temple, 8 mares de vin, livré pour l'année 171 par Bortak et Tirenag, livreur de vin. Et une deuxième main ajoute, depuis le stock, 3 cabiches de vin ont été ajoutées, laissées par les échansons. Ce document ne laisse donc aucun doute sur le fait que les temples administrait des terres cultivées, mais on ne sait pas s'il devait payer une redevance, puisque, comme vous le voyez ici, le vin du temple est mélangé au vin provenant du domaine soumis à la taxe. Et ce mélange ne devait pas être très heureux, puisqu'il a été laissé au cellier par les échansons. Voilà, donc pour des détails et des discussions sur l'histoire religieuse de Nyssa et les implications, je passe la parole à Michael Schenker.
Bon, merci beaucoup, Sandra. Mesdames et messieurs, au cours des dernières leçons, nous avons entendu de nombreuses discussions sur les significations religieuses ou laïques que l'on a attribué aux différents monuments de Nyssa. Ce que je voudrais présenter maintenant est le matériel religieux qui émane de la documentation nyssienne. Commençons par la liste des divinités dont les noms sont attestés comme composants des anthroponymes des habitants de Nyssa. Je dois d'emblée préciser qu'il ne s'agit en aucun cas d'un panthéon réel et structuré des dieux qui étaient vénérés à Nyssa, bien que certains, au sens doute la plupart, l'étaient certainement. Il y a 15 noms divins attestés sur les ostakas de Nyssa. Mitra, Ahura Mazda, Sraosha, Rashnu, Atar, Ma, Tir, Verefragna, Vohumana, Dahena, Vayu, Haoma, Nana, Baga, Sasan ou Sesen. Je vais brièvement les présenter un par un. Mitra était très certainement l'une des divinités indo-iraniennes et iraniennes les plus importantes. Ce nom dérive du mot Mitra qui signifie contrat et par extension alliance, accord, traité, promesse. Il est généralement admis que l'une des fonctions originelles des Mitras était de personnifier la notion des contrats. Dans l'Avesta, Mitra n'apparaît pas dans le rôle qu'on lui connaît le mieux, celui du soleil ou du dieu soleil. Il tient cette fonction solaire d'un développement secondaire qui a peut-être eu lieu pendant la période achéménide. Mitra est le nom théophore le plus commun dans la nomastique nyssienne et il dépasse de loin tous les autres. Ahura Mazda, seigneur sagesse ou seigneur sage, ou littéralement seigneur omniscient, était le dieu des Zarathoustra et demeure la divinité principalement vénérée dans le zoroastrisme moderne. Il n'est pas clair s'il était un ancien dieu iranien avec des origines dans le passé commun des Indo-Iraniens ou s'il correspond à une innovation des Zarathoustra. Sraosha est une divinité majeure dans l'Avesta. Son nom signifie obéissance, écoute ou disposition à l'écoute. Il existe certaines indications textuelles qui laissent supposer que Sraosha serait une création avestique plutôt qu'une ancienne divinité de la tradition indo-iranienne. Les écrits zoroastriens l'associe à l'acte de la prière. Il sert en effet de médiateur entre le monde immatériel et le monde matériel et agit également en tant que message divin. Rashnu est le yazata avestique du jugement, dont le nom signifie « juge, celui qui rend justice » ou « celui qui rend droit, qui sanctifie ». La tradition zoroastrienne l'associe étroitement à Mitra et lui confère un rôle majeur dans le jugement des âmes. Haoma est la personnification de la plante rituelle, le Haoma, soma indienne, employé dans le sacrifice zoroastrien et pressuré au cours du grand rite du Yasna. C'est aussi un dieu important dans l'Avesta et dans les textes zoroastriens postérieurs. Atar est à la fois le dieu de feu et sa manifestation visuelle. On pense en général que son culte dérive de la vénération du foyer domestique par les peuples indo-européens. C'est en tant que fils d'Ahura Mazda qu'on s'adresse à lui dans l'Avesta. Ma est le dieu lune et le un des dieux les plus populaires et les plus fréquemment représentés dans l'art iranien et centre-asiatique. Tiria, ou Tyr, est initialement le dieu de la planète Mercure et d'une origine incertaine. Probablement, dès la période achéménide, il a été identifié au dieu iranien Tishtria, divinité importante du panthéon avestique et dieu de l'étoile Sirius, l'étoile du grand chien, qui faisait sans doute déjà l'objet d'un culte chez les Indo-Iraniens ou même déjà chez les Indo-Européens. Dans l'Avesta, Tishtria est spécialement associé à l'eau et à la pluie, et comme il était également assimilé à l'étoile Sirius, il est comparé à une flèche. Vayu est avant tout un dieu atmosphérique, mais il a aussi été associé au souffle vital des êtres vivants. Dans l'Avesta, il prend l'aspect d'un dieu guerrier, belliqueux et implacable. Dans les documents d'Inissa, un domaine et un vignoble porte son nom. Vahumana est l'un des six Ameshaspenta. Il apparaît dans l'Avesta à la fois comme une abstraction et comme une entité concrète, le protecteur et le patron des animaux bénéfiques, notamment du bétail. Tandis que le Dhyana représente dans l'Avesta la capacité de vision et la partie féminine de l'âme humaine, dans la tradition zoroastrienne postérieure, elle est la représentation des actions que l'homme a accomplies dans ces mondes. C'est une entité divine dont les descriptions anthropomorphiques sont les mieux documentées dans la littérature iranienne ancienne. Sur le pont Chinvad, qui sépare les justes des damnés, elle vient à la rencontre de l'âme du défunt et apparaît au juste sous la forme d'une belle jeune fille et aux damnés sous les traits d'une vieille femme hideuse. Virthragna est une ancienne divinité iranienne du combat et de la victoire, dont la personnalité a préservé les traces d'un ancien mythe indo-iranien. Il occupe un rang très élevé dans le panthéon avestique comme un puissant dieu guerrier dont le nom signifie « destruction de l'obstacle ». Les origines de la déesse Nana et l'étymologie de son nom sont encore entourées de mystères. C'est à Sumer, à la fin du troisième millénaire, qu'elle apparaît pour la première fois et certains spécialistes pensent que son culte a été introduit hors du territoire sumérien, peut-être par les lames. Les sources cunéiformes indiquent que Nana n'était pas la manifestation de la déesse mésopotamienne Inanna-Ishtar et qu'elle était en réalité distincte de celle-ci. Pourtant, tout comme Ishtar, elle était considérée comme la déesse de l'amour et possédait aussi des attributs guerriers. En outre, Nana était considérée comme la fille du dieu de la lune, Sin, mais le fait qu'elle a été elle-même une déesse lunaire ne peut être déduit des sources textuelles mésopotamiennes. En Sogdian et en Bactrian, Nana était la divinité la plus importante. Elle ne serait pas surprenant qu'elle a de même occupé une place significative dans le panthéon de Parthes, mais ceci ne serait qu'une supposition compte tenu de l'état de nos connaissances sur la religion parthe. Dans les études actuelles, Nana est parfois identifiée à des déesses iraniennes, le plus souvent à Anahita, déesse de l'eau, et à Spenta Armaiti, déesse de la terre, mais cette supposition n'est pas corroborée par les sources. La signification originelle du mot baga est distributeur, dispensateur, dérivé de la racine bag, distribuer, allouer. Le sens générique de Dieu est en développement secondaire, attesté de manière sûre pour la première fois dans les inscriptions royales achéménides. Dans le panthéon de Nissa, nous ignorons si un dieu en particulier était désigné par Baga. En revanche, en Sogdien, Baga remplaçait le nom de Mitra, auquel l'onomastique sogdienne ne se réfère jamais. Toutefois, il ne semble pas que la population de Nissa a eu une quelconque réticence à employer le nom de Mitra. C'est au contraire l'un des forts les plus populaires. Dès lors, il est impossible de dire quel dieu ou quel ensemble des dieux se cache derrière le nom des Baga Anissa. Le dernier dieu est un personnage énigmatique du nom des Sassan ou Sessen. Les deux variantes sont possibles puisque la graphie parthe n'est pas vocalisée. Chacune représente l'une des interprétations proposées pour ces noms. Selon la première interprétation, il s'agit d'une divinité parthe qu'il était en quelque sorte liée à l'autodésignation des dynastes sassanides. Selon la seconde interprétation, qui favorise la vocalisation par Sessen, ces dieux auraient un rapport avec le dieu sémitique Sasm ou Sesm, aux fonctions apotropaïques, est bien attesté dans l'onomastique ougaritique, phénicienne, assyrienne et araméenne, ainsi que sur les amulettes. La seule chose qu'on puisse affirmer avec certitude est qu'on a à l'époque des documents nicéens, il était déjà bien établi et bien assimilé, et qu'un temps considérable avait dû s'écouler depuis son adoption, parce que son nom se retrouve à Nissa dans des noms composés où on lui associe des thèmes verbaux comme donner ou sauver, qui sont typiquement parthes. Ces éléments se retrouvent aussi avec d'autres noms des dieux, dès lors rien ne suggère que Sassan, Sessen, était différent des autres. Si l'on penche pour l'interprétation par Sessen, on doit alors pouvoir expliquer les voies de transmission par lesquelles une divinité sémitique occidentale a été introduite dans le panthéon de Nissa. L'intermédiaire le plus évident serait la Mésopotamie, mais Sessen n'est jusqu'à présent jamais attesté à Douraïropos, Khatra ni même à Palmyre. Pour clore cette liste, on doit également mentionner les très multiples noms formés sur Artha, ancien concept endoranien et zoroastrien de la vérité de l'ordre cosmique. Les mots Yezata, qui signifie digne de sacrifice en vestique, entrent également dans le matériel onomastique de Nissa. À présent, que nous apprennent ces données sur les dieux vénérés à Nissa? Selon la grande historienne du zoroastrisme Mary Boyce, un nom teofor est une indication évidente de l'existence d'un culte à la divinité dans la région et la période où ce nom est attesté. De plus, elle affirme qu'en donnant à leurs enfants des noms teofor, les habitants de Nissa étaient pleinement conscients de leur définition et leur signification. Or, cette assertion est davantage fondée sur une opinion subjective que sur un constat des faits. Et il faut ajouter que ce n'est absolument pas clair dans quelle mesure le statut d'un dieu peut être reflété par sa prédominance dans l'onomastique dans certains milieux culturels donnés à une époque donnée. D'après une observation méthodologique importante faite par un éminent spécialiste de l'onomastique iranienne, Rüdiger Schmidt, seulement les nouvelles créations théophoriques attestées pour la première fois à une certaine époque peuvent servir d'indication fiable sur le degré de popularité de ces divinités. Cependant, la prédominance du nom d'un dieu dans les anthroponymes l'effraie-t-elle son statut réel dans le panthéon? Peut-on dire, par exemple, que la prédominance accablante de Mitra dans les noms de Nissa signifie nécessairement que ce dieu était le patron de la forteresse? Ou alors, le genre de Nissa ne préfère-t-il pas plutôt nommer le progéniture d'après Mithridate Ier, l'un des plus grands souverains parthes et fondateurs de la vieille Nissa, alors appelée Mithridate Kirt? On ne peut répondre à cette question de manière décisive, car aucun temple dédié à ces dieux n'est mentionné dans les ostrakas, ni aucune donnée attestant d'un culte spécifique à Mitra. Par ailleurs, il ne semble pas y avoir de corrélation entre les deux cas. Par exemple, il n'existe à Nissa qu'un seul nom basé sur celui de la déesse Nana, tandis que les ostrakas mentionnent un temple qui lui était dédié. Quoi qu'il en soit, les dieux qu'on trouve dans les théophores nissiennes ne doivent probablement pas être pris comme une liste des dieux faisant obligatoirement l'objet d'un culte propre et des rites établis. Ils nous fournissent néanmoins une indication précieuse sur l'atmosphère religieuse présente à Nissa. Sur les 15 dieux, 11 sont clairement iraniens et bien connus par les traditions zoroastriennes. Parmi les 4 restants, Nana et Tyr, bien que d'origine non iranienne, n'étaient certainement pas considérés par les habitants de Nissa comme des divinités étrangères. Baga est aussi probablement un titre pour désigner un dieu iranien. Mais doit-on appeler tous ces dieux zoroastriens et en déduire avec Mary Boyce que la population de Nissa était sans aucun doute zoroastrienne? Ou plutôt se rallier à Rüdiger Schmidt, qui préfère voir dans ses noms théophores simplement des noms iraniens, non nécessairement zoroastriens. Je n'ai pas le temps ici de rentrer dans ces débats complexes, ni même d'esquisser la problématique historique concernant la croyance que nous appelons aujourd'hui le zoroastrisme. Le zoroastrisme moderne, comme nous le savons, dérive clairement de la variante de la religion iranienne dont la formulation finale et canonisée date seulement de la période sassanide ou même post-sassanide. Nous sommes dans l'ignorance presque totale quant aux étapes de développement et de transformation du zoroastrisme en une religion dominante dans l'empire sassanide et nous ne savons pas plus dans quelle mesure les pratiques religieuses et les croyances de cette période reflètent celles des époques antérieures. En réalité, l'une des difficultés majeures est l'absence d'un ensemble distinct de critères pour définir ce qu'est le zoroastrisme et que l'on pourrait appliquer aux sources religieuses de l'Asie centrale ou d'Iran ancien. On a le sentiment qu'en l'absence de ces critères, le débat sur le fait que les Parthes furent ou non des Zoroastriens n'est qu'une guerre des mots et n'aide en rien à notre compréhension du matériel religieux observable. Il n'y a aucun mal à appeler les dieux de Nissa Zoroastriens tant que l'on approche cette documentation sans idée préconçue et sans essayer de faire correspondre systématiquement chaque donnée de la religion parthe avec le cadre restrictif des sources zoroastriennes perses des périodes plus tardives. Les résultats seraient identiques si l'on traitait la matière religieuse des Nissa et la religion zoroastrienne comme deux variantes très proches à l'intérieur de la vaste tradition religieuse par-iranienne. Bon, je propose d'arrêter maintenant et continuer la prochaine fois.
Moi, j'aurais, avant de passer la parole au public, j'aurais deux questions sur deux absences dans, dans cette liste. Vous n'avez donc pas mentionné de nom avec l'élément Farn ou Farn, et pas non plus d'élément de nom avec l'élément Frawart. Or, on les attend évidemment, puisque Farn, c'est un dieu de plein exercice et c'est aussi une notion, c'est la notion donc à la fois de la prospérité, de la légitimité, mais aussi dans un contexte plus spécifiquement royal, du principe de légitimité, etc. Est-ce que l'élément Farn est absent de l'onomastique de Nisa?
Non, bien sûr, nous avons les éléments avec
Farn. Il y en a avec Farn.
Mais peut-être c'était seulement comme gloire, pas comme un dieu.
Mais on peut aussi le on peut le prendre de deux points de vue, comme la notion ou comme, parce que c'est toujours délicat. Den aussi, on peut prendre considérer comme une divinité ou comme une notion. Dans le cas de Farn, on sait que non seulement c'est un des dieux. C'est effectivement pas un dieu du calendrier, mais on en a des représentations anthropomorphes sur le monnayage couchant. Alors il y a un autre cas délicat, c'est celui donc de l'élément ancien iranien Fravashi, qui en part doit donner, je pense, Frawart ou on a des c'est une divinité, mais une divinité collective. Et on a été, cette notion, ou ensemble de divinités, a été considérablement mobilisée par les archéologues de Nissa pour expliquer la présence possible ou probable d'images d'ancêtres royaux. Alors, est-ce qu'on trouve cet élément dans l'onomastique ?
Oui, bien sûr. Et aussi sur le nom des vignobles, n'est-ce pas ?
Il y a un domaine qui s'appelle Fravashi, qui a été vocalisé Fravashi par les éditeurs. Bien sûr, la graphie part n'est pas vocalisée, donc on peut vocaliser comme on peut, mais c'est écrit Fravashi.
Ah oui. Oui, mais en même temps, il y a un ou plusieurs rois partent qui s'appellent Fraortes. Mmh. Donc c'est toujours la question délicate quand on a dans des noms d'un domaine qui sont portés à la fois par un roi parthe et par une divinité. Est-ce que le domaine a été nommé d'après...
C'est la forme avestique, c'est Fravashi, c'est pas Fra.
Ce serait la forme avestique, donc la forme du calendrier.
Voilà.
Donc là, on peut penser que c'est archaïsant et que donc ça réfère à la divinité et non pas à des personnages contemporains qui portaient ces noms-là. Parce que donc, dans le cas des domaines, si un domaine s'appelle... on a quelques cas de domaines pour les noms desquels on hésite parce que ça peut être le nom d'un dieu et donc on pourrait penser que le domaine appartenait au temple du dieu ou était consacré au service du dieu, mais ça peut être le nom d'un roi, donc le domaine aurait pu appartenir au roi, ou bien en troisième cas possible, comme l'onomastique aristocratique se calque évidemment beaucoup sur l'onomastique de la famille royale, ça peut être le domaine d'un noble qui s'appelle comme un roi. On a très souvent ces cas-là. Alors, je crois qu'il reste de la matière pour la semaine prochaine sur Ayadana. On pourra avoir une discussion aussi un peu pointue sur le cas extrêmement délicat de Sesen-Sasan, parce que c'est un débat récent qui a été ouvert seulement il y a quelques années. puisque avant tout le monde lisait Sassan, et puis depuis on a mis ça en cause, et donc d'où l'interprétation d'après une divinité sémitique. C'est un débat récent, c'est un débat qui est très vif, puisque les meilleurs spécialistes ont des positions diamétralement opposées, et c'est un débat qui n'est pas sans enjeu. Parce que, évidemment, la question, si on est amené à introduire parmi les divinités du panthéon de Nysa une divinité qui n'a rien à voir avec le zoroastrisme, mais qu'on retrouve après dans le matériel magique sassanide, c'est important pour la perception globale qu'on a de la variante, disons... de zoroastrisme ou de religion iranienne, selon le point de vue dont on se place, qui est représenté à Nysa. En tout cas, je pense que ces deux exposés offraient un excellent complément à ce qui a été dit sur les monuments, puisque par une approche documentaire complètement différente, on arrive à se poser les mêmes questions. Et avant de conclure, donc, j'invite, il reste peut-être quelques... de la place pour quelques questions, s'il y a des... si ça n'est pas le cas, en fait, je préférerais du coup qu'on renvoie les discussions à la semaine prochaine, car je viens de me rappeler que j'ai effectivement mon avion à prendre. Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.